Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Blanc au micro pour cette première émission de ce de cette saison, la première 9 janvier aujourd'hui. Déjà, ça coule, ça va vite. Voilà, je dis bonjour à tout le monde, bonne année avec un plein de belles petites choses, beaucoup de rires, de sourires. Voilà, et je vous souhaite du fond du cœur que vous rencontriez des gens qui vont vous tenir les bras, vous aider, vous faire rire, raconter de belles histoires où on vous ouvrit des portes. Pour ceux qui cherchent à améliorer leur carrière ou bien faire des rencontres, tout simplement dans la vie de tous les jours, pourquoi pas. Bonjour Samuel.
Bonjour Fulgence.
Bonne année à toi.
Merci, à toi aussi.
C'est mon complice à la console là-bas. Sans lui, j'ai pas de micro, ça c'est clair. Bonne année à tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette émission, depuis la naissance de cette émission Afrique-Caraïbe. Et même ceux qui ne nous ont jamais écoutés, on leur souhaite aussi une bonne et heureuse année 2025. Mon invité d'aujourd'hui, parce qu'en deuxième partie d'émission, je n'ai pas d'invité, je me suis concocté quelques sujets culturels, un peu de littérature, de théâtre et autres. On reste un peu dans le domaine culturel. Toute l'émission, la première invitée ici, mon invité la seule, bien sûr, Ayana Ocean. Elle va me corriger si je prononce mal le nom de famille. C'est Ocean. Elle me le dira. C'est une personne qui porte plusieurs chapeaux. Comédienne, scénariste, réalisatrice, animatrice, conférencière. Elle est mieux placée pour me corriger. Bonjour Ayana.
Bonjour Fulgence.
Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler un peu de ton parcours artistique.
Ça me fait plaisir.
Oui, tu t'habilles de ce manteau d'artiste depuis très longtemps.
Absolument. Oui. Quand j'étais plus petite, vivant, je voulais devenir médecin. Et puis, quand je suis arrivée au cégep, je m'ennuyais dans mes cours de sciences, mais j'adorais mes cours de littérature et de cinéma. Donc, un soir, j'étais voir ma mère, je lui ai dit « Maman, à l'université, je vais étudier le cinéma ».
Quelle a été sa réaction?
Contrairement à bien des familles racisées, elle m'a appuyée. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir et qui me disent que leurs parents ne veulent pas faire le métier d'artiste.
Oui, parce que c'est pas pour eux, c'est pas du travail. Oui.
Voilà, exactement. Mais elle m'a dit fais ce que tu aimes et tu vas toujours manger. Si tu appliques l'éthique de travail dans peu importe ce que tu fais dans la vie.
Non, donc, Ayana, tu as été chanceuse. Tu es chanceuse d'avoir une maman comme ça. C'est pas tous les parents dans les familles noires là, qui vont réagir comme ça. Laisser ses études de sciences, de médecine ou bien de je ne sais quoi pour aller faire du cinéma, les parents vont te poursuivre avec un morceau de bois, disons. Quelque part, avec le recul, on les comprend, ils ne veulent pas voir les enfants souffrir.
Je comprends, effectivement. Oui. Effectivement, mais ils ne veulent pas les voir souffrir matériellement.
Oui.
Mais il y a une souffrance émotionnelle qui peut être là quand une personne n'accomplit pas ce qu'il veut accomplir. Et puis, je connais beaucoup d'artistes qui ne font pas que ça. Il ne faut pas non plus être naïf et comprendre que travailler dans la culture, ça peut être difficile. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui cumulent comme ça un, deux ou trois emplois de manière à vivre, mais ils ont comme ça ce portefeuille de passion qui leur permettent de s'accomplir aussi comme personne humaine.
Oui, c'est vrai. Alors, on te voit partout depuis des décennies. Hein, on te voit partout. Ceux qui ont connu ton début dans les années, je ne sais quoi, 2004, moi, je venais à peine d'arriver au Québec, de l'Europe. Oui, 2004.
Ça, c'est quand j'avais décidé.
Oui, qu'est-ce que ça te dit quand je dis le jour d'après ou bien sûr je dis sur la route et puis les mains noires, ça te dit quoi tout ça?
Ça me dit tous mes débuts. Ça me dit les débuts quand j'ai fini de dire à ma mère que j'allais en cinéma.
Oui.
Et là, je me suis inscrite à une agence de jeux d'actrices. Et elle m'a reçue tout de suite. J'ai eu une mini-audition et cette agence-là...
Ça veut dire quoi? Une mini-audition? C'était même pas une audition complète, quoi?
Ben non, parce que... j'avais téléphoné les 30 agences qu'il y avait à Montréal à l'époque.
Oui.
Et je leur disais que je voulais faire du cinéma, être devant la caméra et puis que je leur promettais que je leur donnerais beaucoup de contrats. Et ils me posaient une question très simple. Êtes-vous membre de l'Union des artistes ou de l'ACTRA? Donc, ce sont les associations qui regroupent les professionnels du jeu d'acteurs. Et je leur disais non. Et il me disait de revenir les voir quand j'aurai accumulé assez d'expérience pour être membre de ces associations-là.
Oui.
Et cette agence-là, c'est la seule qui a accepté de me rencontrer face à face. Et puis, elle m'a demandé pourquoi je voulais faire ce métier. Je lui ai exprimé ma passion pour le métier. Je lui ai fait un petit monologue.
Oui.
Et elle m'a dit, OK, je vais te donner ta chance. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à me booker dans des auditions. Donc, j'ai eu la chance du débutant, comme on dit.
Wow! Est-ce que tu as gardé le contact avec cette agence-là?
Elle est super. Effectivement, elle fait partie de mon entourage.
Wow! Je dis merci à cette personne qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Oui, sincèrement, il faut le dire, c'est pas... Oui, c'est-à-dire qu'il faut être au bon endroit, rencontrer la bonne personne au bon moment. C'est tout.
Effectivement. Mmh. Il faut être au bon endroit, au bon moment, oui. Avec la bonne personne, et il faut aussi être la bonne personne.
Mais quand je dis rencontrer la bonne personne, ça dit que ça clique, quoi. Il y a une chimie qui est là quelque part.
Exactement.
Sinon, on ne trouve pas la porte.
Exactement.
Voilà, c'est vraiment c'est tout un parcours. Bon, avant de venir sur les nouvelles séries dans lesquelles tu joues tous à la bombe, moi, c'est le début là qui m'intéresse beaucoup plus, parce que c'était une époque où il n'y avait pas assez de noirs dans le milieu artistique.
Oui.
Surtout cinématographique, à l'écran. Ouais. Comment tu te sentais? Les rôles qu'on te donnait, tout ça, est-ce que tu...
Ben, comme vous l'avez si bien dit, les rôles que vous avez mentionnés, c'était beaucoup des rôles en anglais.
Oui.
Donc, du côté du marché anglophone, à l'époque, il y avait énormément de films américains qui se faisaient tourner à Montréal.
Oui.
Et la porte était beaucoup plus ouverte, si on veut, pour les acteurs de la diversité dans le milieu anglophone.
Oui.
Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. J'ai d'abord été membre de l'Association des acteurs anglophones avant d'être membre de l'Association francophone.
C'est pas vrai. Ayana a été membre de l'AFTRA avant d'être membre de l'UDA.
Bien sûr, absolument.
Ah non, c'est pas possible. Normalement, c'est le contraire. On est membre de l'UDA avant d'aller squatter du côté anglophone. Ah non, bravo,
mais
c'est tout un parcours. Oui.
Quand on est francophone, bien sûr. Mais c'est juste un reflet de l'industrie de l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup plus de place pour des femmes qui me ressemblaient au niveau anglophone. Au niveau anglophone, quand ils cherchent un personnage, ils ne mettent pas nécessairement la couleur. Donc, ils disent juste qu'ils veulent une femme entre tel âge et tel âge pour jouer tel rôle.
Mmh.
Et je pouvais auditionner, moi, avec une blonde aux yeux bleus.
Oui, pour le même rôle.
Pour le même rôle, exactement. Mmh. Tandis qu'au niveau francophone, à l'époque, ce n'était pas le cas. Il fallait que ce soit spécifiquement écrit.
Point noir, pouille noire, oui.
Voilà, exactement. Ou racisé, ou bien ouvert à la diversité.
Ces mots que j'aime pas beaucoup, employer racisé, machin et autres. Bon, ça n'engage que moi, hein. C'est moi qui le dis. Ça n'engage que moi. Alors, toi, je te compte parmi les gens qui ont ouvert la porte à la communauté, aux gens de la communauté qui voulaient faire ce métier quand même. Tu dois en être fier, non, Ayana?
Avant moi.
Il y a eu d'autres avant toi. Oui, c'était combien? Il n'y en avait même pas une dizaine ou bien cinq. Il n'y en a même pas.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y en a beaucoup, comme aujourd'hui, qui abandonnent en cours de route parce que c'est trop difficile.
Oui.
Moi, je me tiens sur les épaules de d'autres personnes qui m'ont précédée. Il y a eu, bien sûr, Mireille Métellus, qui est là depuis beaucoup plus longtemps.
Oui.
Et il y a Wildemir Normil, qui est là depuis très plus longtemps que moi. Il y a Angelo Cadet. Il y en a énormément.
C'était mon prof de, comment dirais-je, de motivation à l'école de radio-télé Promédia. Wildemir.
Ah, c'est
vrai? Oui. C'était mon prof de motivation à l'école de radio, télé, Promédia.
Wow.
Oui, c'est quelqu'un qui m'a... Mais je le connaissais auparavant de le retrouver dans cette école. Il était le seul prof noir là-bas, d'ailleurs. À notre promotion 2008, on était deux noirs dans la salle, une fille d'origine haïtienne et puis moi, on était les deux noirs. c'était cette histoire de raciser ou bien de se sentir en minorité, c'est normal, on sait pas nos pays d'origine, c'est tout à fait normal qu'on soit toujours en minorité quelque part, mais c'est le mot racisé que j'aime pas trop, voilà, en gros. Donc je voulais
je le comprends, mais on a de la difficulté à trouver un terme racisé,
quelque part, voilà, en gros, ouais.
Avant on disait ethnie, où on disait minorité visible. Ensuite, c'est passé par diversité. Maintenant, on est racisé. Bon, ça change.
Bon, on revient sur ta carrière. C'est encore plus intéressant. Quel était ton rapport avec les gens de notre communauté qui étaient avant toi? Angelo Cadet, Wilmir, Metellus, quel était leur rapport à toi? Est-ce que tu as eu du support de leur part? Ils t'encourageaient? Est-ce qu'il arrive des moments où tu t'es dit « Ah non, c'est pas pour moi, je suis trop fatigant, je peux pas arriver à atteindre mon objectif » ou bien tu t'es tellement motivé que les embûches ne t'empêchaient pas d'avancer, quoi?
Ben, moi, au départ, quand j'ai voulu travailler dans le milieu du cinéma, j'ai d'abord voulu être réalisatrice. Donc, je suis allée étudier en cinéma à l'université pour devenir réalisatrice. Mmh. Et c'est un de mes profs qui m'a dit, ben, si tu veux apprendre à réaliser, apprends aussi à jouer, parce que de cette manière, tu pourras mieux diriger les comédiens, parce que ici, on va t'apprendre la technique, on va t'apprendre les plans, on va t'apprendre l'histoire, on va t'apprendre plein de choses.
Oui.
Mais le jeu avec les comédiens, si tu veux vraiment le parfaire, apprends à jouer, mets-toi dans leurs souliers, et après, ça va être beaucoup plus facile pour toi de les diriger.
Ah, wow.
Donc, j'ai commencé à prendre des cours du soir de jeu d'actrice. J'en suivais 3 à 4 fois par semaine.
Oui.
Et je suis tombée complètement amoureuse de ce métier-là. Et c'est la raison pour laquelle je me suis trouvée une agente pour poursuivre cette passion-là.
Mm-hmm.
Mais la réalisation a toujours été là en parallèle.
Oui.
Donc, les gens comme Angelo Cadet ou Will Demir, c'est après que je les ai rencontrés, soit sur les plateaux, soit en audition, soit dans des festivals, etc. Puis maintenant, on se connaît, surtout Angelo et Mireille Metellus. Et donc, ce sont des gens que j'ai la chance de considérer comme mes collègues.
Oui.
Et ce sont des gens qui continuent à évoluer dans le milieu, puis on est vraiment chanceux de les voir encore là, parce que ça fait des années qu'ils persistent.
Oui, oui, oui. Bon, quand je suis arrivé ici à l'époque, déjà, il y avait Angelo et Didier Lucien qui avaient leur émission sur ma TV à l'époque.
C'était,
oui. C'était, je suis arrivé ici. J'ai dit, bon, il y a des noirs ici à la télé aussi. Hein. Bon, OK. Voilà, et puis c'était les deux que je voyais tout le temps. Et puis il y a l'autre là, comment il s'appelle celui de papa, je ne sais quoi, jamaïcain, qui fait Belle et Boum, là, comment il s'appelle?
Ah, Norman Bradway.
Norman aussi, oui, que je voyais à la télé. J'ai dit, ah, bon, OK, il y a quelques noirs ici à la télé. Et puis, Bougengo, que j'ai vu aussi à Télé-Québec à l'époque déjà, je me dis, ah, il y a pas mal de noirs qui font le petit bout de chemin ici. Moi, je n'étais même pas dans le milieu de communication de mon chien. C'est 2 années plus tard, en 2006, que je me baladais sur Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent, et puis j'ai vu Radio Centre-Ville. Je voulais aller voir à quoi ressemble un studio de radio. Et puis ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais là. J'ai dit, je vais faire de la radio. C'est comme ça que j'ai commencé.
C'est incroyable.
Oui,
c'est ça.
Oui, c'est 2 ans plus tard que je suis allé à l'école de radio, télé, promédia, quelque chose comme ça de ce genre. Voilà, c'est devenu...
Voilà, puis aujourd'hui, vous faites toujours ça, parce que vous avez suivi cette passion et cette intuition initiale.
Une intuition, voilà, plutôt qu'une passion. C'était une intuition, voilà. C'était,
ouais.
C'était quelque chose... Enfin, je n'avais jamais rêvé de faire de la radio. Je voulais juste découvrir un studio, quoi. Voilà. C'est ce que je n'avais jamais vu de ma vie. C'est comme ça que le virus m'a piqué, quoi. Alors, on revient. Alors, comment on se sent... Voilà, quand tu te vois dans les films, est-ce que tu arrives à te... Fais des commentaires sur tes rôles quelquefois quand tu te regardes à la télé.
Oh, bien sûr. Bien sûr, parce que je suis en constante quête de progrès.
Oui.
Et je me regarde pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche, est-ce que j'aurais pu faire mieux. Puis en même temps, j'ai aussi conscience que je ne travaille pas seule. C'est-à-dire qu'il y a un travail de montage qui est fait.
Oui.
Quand on tourne une scène, souvent on tourne plusieurs prises.
Mmh.
Et dépendant du montage, dépendant de la réaction de l'autre comédien,
oui.
Tout ça est pris en compte pour monter une scène, monter la série, monter le film, etc.
Ouais,
donc
ouais.
J'ai aussi conscience de ça quand je me regarde. Mais en général, voilà, tout le monde fait un bon travail.
Ouais.
Mais étant donné que les opportunités pour jouer, on veut que ça continue, c'est la raison pour laquelle une de mes manières de m'améliorer, c'est de me regarder et de me dire « Ah, peut-être que là, j'aurais pu faire ça. OK, là, ça marche. Ah, là, vous comprenez ?»
Oui.
Ce que je veux dire ? Oui, voilà.
Tu peux me tutoyer, Ayana, moi, je te vous vois.
Ah, super, merci.
Tu mets une petite barrière quand tu me vous vois. Ne me mets pas sur un petit dessin, s'il te plaît. On fait une petite pause musicale, Ayana, et puis on te revient.
Merci.
Oui.
Oui. se mio marito volto no. All'ora dele é nunca faltar pão pra sua família se alimentar. Nossos filhos estão sempre a chorar da miséria que traz sente a respirar. Até pra ir à escola já não há condições. Não se esqueçam que eles são o futuro da nação. Isto tá demais. É a polícia não cumprir com o juramento. É um irmão a saquear outro irmão. Moçambique e nuvens negras. Se eu reclamar, será a polícia contra o povo. O povo contra o povo. Pedimos solução. Eu sou povo. Tenho direito ao emprego. Tenho direito à educação. Tenho direito à saúde. Eu sou povo. Quero uma vida melhor. Sorrir é maneira do moçambicano mesmo a sofrer no cotidiano. A esperança e o amor nunca nos vão faltar. Será que não conseguem ver que Moçambique tá a chorar? Isto tá demais.
C'est un Mozambique comme ça avec Lisa James. Vous allez me dire, mais on croyait que c'était une latino. Non, c'est pas une latine. C'est pas une latina, c'est une mozambicaine, une africaine noire d'ailleurs, parce que le Mozambique, c'est un pays colonisé par les Portugais. C'est ce qui fait qu'elle chante en portugais. Lisa James, je l'ai découverte il y a quelques mois, je l'adore beaucoup. Là, c'est une manière de faire profiter un peu nos auditeurs ici sur les ondes du Canal M. On revient avec mon invité, Ayana Oshenoy, la grande Montréalaise qui... On ne fait que voir sur les écrans. On va parler de ce fameux, le mythe de la femme noire.
Oui.
Je ne peux pas t'avoir en entrevue et puis ne pas parler de ça quand même.
Effectivement.
Oui.
Alors, le film de la femme noire, c'est un documentaire que j'ai réalisé et qui traite des stéréotypes reliés aux femmes noires.
Je l'ai regardé deux fois, je te le dis, en passant.
Oh, oui. Merci. Oui. Merci de me dire ça.
Ah, voilà. Je l'ai regardé deux fois, ouais.
Oh, ça me touche. Ben, c'est ça, c'est un film qui traitait les stéréotypes associés aux femmes noires en Occident.
Oui.
Et je l'ai réalisé parce que moi-même, étant née et ayant grandi au Québec, j'ai réalisé que les images des femmes noires que je voyais à la télévision, au cinéma ou dans les vidéoclips ne correspondaient pas à qui j'étais ou aux femmes de ma famille ou aux gens que je connaissais. Donc, ce documentaire-là, je l'ai fait comme un cri du cœur pour essayer de dire que non, nous ne sommes pas ça. Puis les trois stéréotypes que le film expose, c'est le stéréotype de la femme noire hypersexualisée, qu'on appelle Jézabel, le stéréotype de la nounou, donc la femme noire qui prend soin de tout le monde, et le stéréotype de la femme noire en colère.
Oui.
Donc, dans le film, il y a 21 femmes qui racontent leur 21e siècle et qui disent comment elles ont réussi à déconstruire ces stéréotypes-là dans leur vie afin de trouver leur place au Québec.
Est-ce que
dans le monde.
Oui, Ayana, est-ce que ça a été facile de trouver ces femmes qu'on a vues dans ce film, dans ce documentaire? Ou bien ça a été une longue période de recherche, de fouilles?
Ça a été tellement facile.
Waouh!
Parce que...
Tant mieux pour toi, oui. Toi et toute l'équipe.
Parce que Mais oui, parce que les voix de femmes noires en particulier, ce sont des voix qui sont invisibilisées.
Oui.
Donc, en période de recherche, mes recherchistes et moi, on a dû interviewer 100 de personnes. Donc, la vraie difficulté, ça a été de sélectionner la vingtaine qui allait faire partie du film. Mais chacune avait soif de parler, soif de se dire, avait des histoires hallucinantes à raconter.
Je peux m'imaginer. C'était
un choix déchirant à la fin.
Wow.
Puis, en fait, celles qui font partie du film actuellement, elles ont été sélectionnées pour avoir une diversité parmi les femmes noires. Vous savez, souvent, on est vu comme un tout monolithique.
C'est ça.
Alors que je voulais montrer qu'on est pluriel. Donc, des femmes de différents âges, de différentes couleurs de peau, différentes teintes de peau, différentes textures de cheveux, longueurs de cheveux, différents accents aussi.
Oui.
Puis avec différents métiers, différentes expériences.
Bravo, bravo à toi, à toute l'équipe, parce que là, vraiment, mais j'aimerais avoir une version 2.0. Voilà. Je ne sais pas, peut-être que tu es en préparation, vous les artistes, là.
Mais j'en ai un autre qui sort bientôt, là.
Lequel, dis-moi.
Au mois de février.
Oui. Mais puisque tu m'élances...
Mais tu me réinviteras à l'émission, je vais en parler avec plaisir.
Je vais te réinviter. Non, si tu me dis que ça sort là bientôt, là, le mois prochain, là.
Oui, effectivement.
Février 2025. OK, d'accord. Il va falloir que tu reviennes pour nous parler de ça, alors.
C'est comme un pendant masculin du même genre de sujet.
Ah, dans l'autre sens, oui.
Oui, alors, dans l'autre sens, mais avec des voix de femmes encore.
En avec des voix de femmes encore. Bah, pourquoi tu nous as mis de côté, quoi?
Non, vous êtes là.
D'accord. Bon, Ayana, qu'est-ce que ce documentaire t'a procuré comme joie ou bien comme tristesse?
Le mythe de la femme noire, ça m'a procuré comme joie la satisfaction de savoir que je ne suis pas seule, que je n'étais pas folle quand je réalisais certaines choses par rapport à des étiquettes qu'on me collait dessus.
Oui.
Donc, c'était une joie pour moi de rencontrer toutes ces femmes avec qui j'avais des expériences en commun. Et puis, j'ai une très grande satisfaction à dire que quand le film est sorti dans les salles de cinéma, au Québec en 2023, de nombreuses jeunes filles sont venues me voir pour me dire à quel point le film les avait touchées parce qu'elles pensaient qu'elles étaient les seules à vivre certaines choses. Et puis qu'en voyant ces 21 femmes à l'écran en train de raconter leurs histoires, tout à coup, elles se sont rendues compte que leur expérience n'était pas une expérience seulement individuelle, mais une expérience collective. Puis elles m'ont dit, à partir de maintenant, je peux essayer d'entamer un processus de guérison, peut-être de thérapie, ou peut-être juste m'ouvrir plus, parler plus, sortir de mon cloisonnement.
Comment,
donc
Ayana?
Ça, c'était une joie pour moi.
Une joie, merci beaucoup, ouais, c'est ce que je voulais. C'est ce qui fait que j'ai posé la question. Ouais, parce que
mais,
là, bon,
il faut dire
que...
Oui.
Oui, vas-y, Ayana.
La dernière partie du film, par contre, est une partie que je ne pensais pas, qui ne faisait pas partie de ma recherche. C'est une partie qui traite de santé mentale.
Oui.
Toutes les femmes que j'ai interviewées, en fait, 95% d'entre elles ont commencé à me parler de dépression, ont commencé à me parler de burn-out.
Donc, au début, tu ne voulais pas aller là?
Pas que je ne voulais pas, je ne voyais même pas
que
c'était un enjeu.
Oui.
Et puis là, quand la plupart d'entre elles sont mises à me parler de ça, en salle de montage, c'était évident qu'il fallait traiter de ce sujet-là.
C'est ça, effectivement, oui.
Donc, ça a donné tellement une autre envolée au film, parce que non seulement on parle des stéréotypes, mais parmi les conséquences de ces stéréotypes, il y a des cas vraiment très sérieux de santé mentale, de problèmes de santé mentale qui découlent de ça. C'est pour ça que cette prise de parole de ces femmes dans le film, c'est aussi une reprise de pouvoir sur elles-mêmes.
C'est ça.
Beaucoup
c'est ça.
Ont passé à travers des problèmes de santé mentale, justement, et c'est par la prise de parole, entre autres, qu'elles ont pu s'en sortir.
Oui, oui. Et on est resté campé sur le mythe de la femme noire, c'est parce que c'était le numéro un des documentaires au cinéma en 2023, il ne faut pas l'oublier.
Oui. J'en suis extrêmement fière parce que ça faisait 10 que je voulais faire le film au moins.
Oui.
Et les institutions me disaient non. Puis un des commentaires, c'était qu'il n'y avait pas un public assez étendu.
C'est pas vrai.
Qui irait voir le film.
OK.
C'était un des commentaires.
Quoi? Qui t'a dit ça? C'est la SODEC qui finance les choses, qui dit des choses comme ça ou bien quoi? Parce que, de toutes les façons, oui, un public, nous sommes là. On ne sommes pas 2, 3, 10 au Québec.
Oui. C'est pas nécessairement la SODEC, mais sinon les institutions.
Les institutions, oui.
Et En fait, je suis très contente que le film ait marché puis ait été numéro un, parce que ça leur prouve que c'est pas parce que des histoires s'adressent, par exemple, aux femmes noires qu'elles s'adressent pas à tout le monde. Parce que ce que vivaient les femmes dans ce film-là, ce sont des cas vécus par des femmes en général. Et il y a tellement d'hommes qui sont venus me voir, qui l'ont vu comme toi, 2-3 fois avec leur femme, avec leur fille, avec leur mère, et qui ont, ça a développé des conversations extrêmement riches dans leur famille ou dans leur compagnie ou dans leur collectivité. Et c'est ça qui fait que le film a marché. C'est parce que c'est pas juste les Noirs sont allés le voir, mais il y a aussi des Blancs qui sont venus le voir, des Latinos, des Autochtones,
Ça touche à tout le monde.
Parce,
et puis,
parce que là-bas, c'est un film sur la dignité humaine.
C'est la dignité humaine, en gros, c'est comme ça que j'ai vu.
Voilà.
Alors, puisqu'on est à la fin de cette demi-heure de l'émission, je vais te garder encore pour 5 minutes. Là, on va dépasser la demi-heure d'émission. Là, parce que je sais que tu as beaucoup à dire. Mais quand on est sur ce mythe de la femme noire, là, parce que c'est quelque chose qui, quand je dis je l'ai regardé deux fois, et puis je me retrouvais là-dedans, je retrouvais certaines femmes noires que je connaissais aussi là-dedans, tout ça, comment elles étaient victimes des stéréotypes, je veux dire. Voilà. Donc, c'est en gros, c'est une minute et demie. Je te fais respirer un peu encore et puis on revient. Je te garde encore au moins pour 5-10 minutes pour qu'on touche à d'autres parties de ton parcours artistique.
D'accord.
À tout à l'heure, Yana.
À tout à l'heure. Ouais.
Oui, restez à l'écoute. Après la petite publicité, je vais continuer avec mon invité Ayana. Oui, et là on écoute Diwan du Burundi en complicité avec Miko de Best Kukutamba. Restez à l'écoute.
Vous écoutez Afrique Caraïbes avec Fulgence Blas. Avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Je continue avec mon invité qui a beaucoup à dire. Je ne vais pas la laisser partir comme ça. Elle m'a donné l'autorisation de la garder encore pour 5-10 minutes. La prochaine fois, peut-être que je vais passer toute l'heure d'émission avec elle en février. Quand tu vas parler de son nouveau film.
Alors, je vous inviterai à la première alors.
Ça me fera plaisir. Voilà, là je dis tout de suite oui, je dis pas non là, sinon tu vas m'en vouloir.
C'est sûr.
Ayana, oui, la fabuleuse cette nouvelle de la SODEC en mai 2024 là, concernant l'appui aux 14 projets. Parle-nous un peu de ça. Comment tu t'es sentie d'avoir une bonne nouvelle comme ça pour ton premier long métrage de fiction?
Oh mon Dieu, c'était un cri de joie de ma part et de la part de toute l'équipe. Je travaille pas seule, bien sûr. Toute l'équipe s'est exclamée « Hourra, hourra » parce que c'était un dépôt difficile.
Oui.
Il y a presque une centaine de projets qui ont été déposés, donc de faire partie de la quinzaine qui ont été retenus, c'était une joie pour tout le travail qu'on avait mis dans le projet.
C'était mérité.
Mérité. En fait, tout le monde probablement le mérite. Donc, il y a de tout. Il y a du travail.
Oui.
Après, il fallait aller pitcher le projet. J'y suis allée avec ma coproductrice à la SODEC pour pitcher le projet devant les directeurs et les jurys. Donc, c'était intimidant. Donc, quand quelques semaines plus tard, la réponse est sortie, on était... heureuse et soulagée.
Ouais, bravo à toi et à toute l'équipe.
Merci.
Voilà. Là, on va pas se quitter sans toutefois un petit clin d'œil aux nouveautés dans lesquelles tu joues là. Les nouveautés, je parle de Les Révoltés à TVA. Bon, ça c'est pas des trucs qui ont la même date que Le Jour d'après en 2004 ou bien La Route. C'est La Route. je reviens à tes débuts là.
Merci de me rappeler ça parce que je me rends compte que je me rends compte tout le chemin parcouru et oui. où j'en suis aujourd'hui. Puis je suis vraiment remplie de gratitude. C'est un chemin, comme je l'ai dit au début, qui n'a pas été fait seul. Donc, il y a eu toutes les agences, il y a eu les rencontres, il y a eu tous les professeurs.
Oui.
Il y a eu tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit ici ou ailleurs, les festivals, tous ces gens-là contribuent non seulement à la richesse de mon parcours, mais aussi à quelque part à, aux réussites. Puis on parle de réussite, mais ce qu'on voit, c'est la pointe de l'iceberg quand on voit des artistes réussir. Il y a en dessous de l'iceberg, sous l'eau, il y a énormément d'échecs, il y a des déceptions, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des larmes, il y a de la sueur, il y a tout ça.
Oui.
Mais ça, on ne le voit pas. Mais ça c'est 80% de circonstances.
Oui, mais de toute façon, c'est mieux pour nous, comme ça, de voir beaucoup plus que vos réussites, c'est mieux. Et voilà. Voilà, non, quand on vous voit en haut, là, et puis on va vous applaudir dans les salles, ou bien on vous voit dans la rue, et puis on est content de dire merci, bravo, bonne continuation, c'est mieux comme ça. Voilà, sinon quoi, ça va être un peu lourd de dire, ouais, ça va pas bien, n'a pas été retenu pour tel rôle, ou bien quelque chose comme ça. Non.
Je dis ça aussi pour que les gens qui m'écoutent et qui veulent faire ce métier ne se découragent pas.
Toujours des embûches.
C'est normal,
voilà.
C'est normal d'être découragé. Les obstacles, c'est normal.
Oui.
Mais comme on dit, les obstacles, c'est ce qui permet de grimper la montagne. Si une montagne est lisse, on ne peut pas y grimper.
Ça fortifie, comme nous disent beaucoup de gens. Oui, oui.
Exactement.
Ça donne la force. Ingar, une fille, cœur battant, Radio-Canada, Belle Fleur, à Crave, et long métrage de fiction, La Fonte des Glaces de François Péloquin. Toutes ces rencontres, tous ces films dans lesquels on te voit, tu es passé, on te voit, on te verra encore, et les approches là, comment tu réagis chaque fois que tu es sélectionné après l'audition? Tu te dis encore.
Oh, ben je suis encore, pleine de joie.
Encore moi, je suis choisie, oui.
Non, je ne dis pas encore moi.
Oui.
Je dis youpi.
Youpi, ok.
Non, je dis youpi.
Oui.
Parce que le mot encore est de trop. Mm-hmm. Comme je l'ai dit, on est refusé 80% du temps.
Oui, donc, c'est vrai, encore moi. Ça veut dire que quand je dis ça, ça dit que ça marche bien pour toi, quoi, quand je dis encore moi, ouais. C'est pas négatif. Quelqu'un peut le dire encore moi quand il échoue quelque part. Oui.
En fait, on peut le dire qu'on échoue ou qu'on gagne. C'est ça la vie.
C'est une dualité
en fait. Mm. Il y a le yin puis là il y a le yang.
Ouais.
Donc on réussit, on échoue et c'est comme ça. Ce qui compte c'est de demeurer présent en fait.
Oui. Est-ce que Ayana est une perfectionniste? Est-ce qu'elle s'en veut tout le temps que ça marche? Quand ça marche pas comme elle veut que ça marche?
Ah, comment t'as deviné?
Est-ce que tu es perfectionniste, Ayana?
Oui, mais je me soigne.
Est-ce que tu te demandes trop, tu t'infliges trop de douleurs quelquefois dans ta perfection?
Faudrait demander à mon mari, mais effectivement...
Il est à côté? Il est à côté, passez
le
mot.
Non, il est pas à côté.
Il allait nous le dire.
Il écoute. Non, c'est vrai que j'en fais trop, et puis... mais je me soigne, et puis... J'essaie.
Tu fais un effort.
Je fais l'effort parce que être perfectionniste, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pense ou à ce qu'on peut dire en société, ce n'est pas une qualité. Au contraire.
Mais c'est pas un défaut non plus. Est-ce que tu vois ça comme un défaut que tu as?
Parce que la perfection n'existe pas. Donc rechercher quelque chose qui n'existe pas, c'est une maladie.
Voilà. C'est pas moi qui le dis, Ayana.
Il faut être organique, il faut être vrai, il faut être sain.
Oui.
Je me dis tout ça, mais en même temps, je me parle à moi-même.
Ayana, content d'échanger avec toi. Sincèrement, comment tu as réagi quand tu as eu ce courriel-là pour te parler quand tu étais finaliste des 39e prix Gémeaux là? Tu étais où quand tu as reçu le courriel?
Dieu.
Tu étais où?
J'étais dans ma cuisine.
Explique-nous
un peu. J'étais dans ma cuisine en train de... Qu'est-ce que je faisais? Je pense que je faisais la cuisine.
Oui.
Tout simplement. Mm-hmm. Et puis là, je vois le courriel rentrer et je clique dedans et puis je vois, vous êtes finaliste au prix Gémeaux et vos billets, veuillez réserver votre billet, les prix Gémeaux auront lieu à telle date de l'automne, etc.
Oui.
Tout de suite, j'ai appelé ma coproductrice, Bianca, pour lui dire, Bianca, on est sélectionné, changez-moi. Puis on a crié toutes les deux au téléphone. Parce que, en fait, oui. pour qu'un documentaire, vous imaginez, c'est un documentaire qu'on a commencé à le faire. On n'avait rien. Vu qu'on n'était pas financé, on l'a fait avec nos cartes de crédit.
C'est
qu'on
venait.
Ben oui, c'est le financement est rentré après.
Wow.
Après, une fois qu'on avait un démo, etc. Donc, oui. de qu'on réalise tout le parcours, puis de nous voir nommés comme finalistes au prix Gémeaux. Pour nous, c'était ça la victoire.
Wow.
C'était pas tant de gagner, mais d'arriver dans les 5 premiers. Wow! Puis dans un gala des prix Gémeaux qu'on écoute depuis qu'on est toute petite.
Oui.
Puis de se retrouver là, parmi tous ces gens qu'on connaît de près ou de loin, c'était magnifique.
Qu'on peut appeler des grosses têtes. Ouais, voilà. Des grosses têtes, on peut les appeler comme ça. Alors, avant de te laisser partir, parce que tu vas revenir en février pour nous parler de ton nouveau bébé.
Oui.
Oui.
Absolument.
Alors, quel conseil tu as donné aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux jeunes garçons de notre communauté qui veulent se lancer dans dans le beau métier que tu fais?
Bien, je leur dis de commencer quelque part.
Oui.
Comme on dit, l'expression qui dit « la marche sur la lune a commencé par un pas mmh. » dans la bonne direction. Mmh. Donc, même si ça vous semble loin et inaccessible, commencez par un pas. Et puis, le premier pas que j'ai fait et puis que je recommande absolument, c'est la formation.
Oui.
Si vous, que vous vouliez jouer, que vous vouliez réaliser, peu importe ce que vous voulez faire, il faut se former. Il y en a qui se forment dans des écoles reconnues pour ça. Il y en a qui se forment dans des formations spécialisées courtes. Il y en a qui se forment sur Internet. Peu importe,
oui.
la formation existe et il faut la faire.
Ouais.
Parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et ce qui distingue les uns des autres, c'est l'excellence.
Oui. Tu sais, merci bien de donner cette explication, de donner ce que tu penses, ouais, le conseil que tu donnes aux jeunes gens qui veulent faire ce métier, ce beau métier que tu fais. Quand tu vas revenir en février pour parler de ton nouveau bébé, on va parler aussi de ta plume. Quand tu prends ta plume, là, quelles sont tes sources d'inspiration? On réserve ça pour le mois de février. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir eu le temps de venir nous permettre de découvrir un peu ton parcours artistique. La femme qui
Merci.
N'est pas seulement devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Oui. Et il y a le nouveau bébé qui arrive. Oui, vas-y, je t'écoute.
Ben, j'ai très hâte de rencontrer Fulgence derrière le micro.
Oui. Merci à toi. Je te souhaite
Merci.
Bon vent et au plaisir de se revoir bientôt pour ton nouveau film.
À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Compte mes conscience.
Diverse cultures, oh, some say Africa is their future, some say it is the next frontier, oh, one thing I can tell you right now, it's the land of the gods, yes, one thing that I'm sure of, it's the land of the Asians. So many stories have never been told. So many mysteries yet to unfold. So many stories have never been heard, yet to be shared. What a beautiful place we know, Mama Africa. What a land filled with so much love, Mama Africa. So much to share, so much to see, and where the people live in harmony. Such a sacred place we love, Mama Africa. There'll be stumbling blocks along the way for our progress. But if we elevate our minds and believe in ourselves,
nothing can stop us. Our forebears created great nations, that's in the past. And overcame so many evil forces, I can't forget that.
Africa, c'est le titre de la pièce. C'est un duo, c'est Born African avec la complicité de Morgan Heritage. Pour ceux qui connaissent le milieu de la musique reggae, Morgan Heritage, c'est une famille. Tout le monde fait du reggae là-bas. Ils sont installés aux États-Unis, mais je pense bien qu'ils sont d'origine jamaïcaine. Et Born African aussi, c'est un Jamaïcain. Et le titre qu'on vient d'écouter, c'est Mama Africa. C'est ce qui fait que je dis souvent d'ailleurs, les Jamaïcains, c'est des gens qui sont plus africains que les Africains qui vivent sur le continent. Voilà, ils se sentent vraiment fils, descendants de ce vieux continent, de ce continent qu'on appelle l'Afrique. Voilà, on va parler un peu de littérature. On reste dans le milieu culturel, là, comme ça. Au Kenya, il y a la jeune fille de 11 ans qui a reçu le prix Machujua Wakusoma Kusoma pour son exploit de 1178 livres lus en 3 mois. Je dis bien 1178 livres lus en 3 mois. Une jeune fille de 11 ans, élève de 11 ans, à l'école, de l'école pour filles de Kibera, qui a été récompensée pour le prix par le prix Machujua Wakusoma pour son impressionnante performance de lecture. Ne me demandez pas d'aller faire concurrence avec elle. 1178 livres lus en 3 mois. Allez-y comprendre quelque chose. À 11 ans. Donc ce prix, c'était en fin d'année 2024. Ça ne s'est pas passé hier. Là, ça vient de 2024, fin d'année. Et ce prix lui a été décerné d'ailleurs par World Reader et le Service National des Bibliothèques du Kenya, le KNLS, dans le cadre d'une initiative nationale d'ailleurs dédiée à la promotion de la lecture chez les jeunes Kenyans. J'ai dit bravo à ceux qui sont derrière ce beau projet. Donc ce défi Machujua Wakusoma qui adhère pour encourager la lecture des jeunes et ce prix qui célèbre les jeunes lecteurs kenyans les plus assidus. Il faut tenir le coup. Hein. Cette distinction encourage aussi la lecture chez les enfants, valorise les lecteurs passionnés et fait la promotion de l'alphabétisation et de l'éducation. Ça dit tout. Ça avait été lancé le 12 juillet 2024. Hein, voilà. Donc l'initiative incitait les enfants de 3 à 12 ans à lire 25 livres en l'espace de 3 mois. Ouais, c'était comme ça le début, 25 livres en l'espace de 3 mois. Donc le défi avait mobilisé des participants dans les comtés de Nairobi. Pour ceux qui ne le savent pas, Nairobi, c'est la capitale, c'est la plus grande métropole du Kenya. Kisumu, Kiambu et puis Mombasa, qui fait partie des grandes métropoles du Kenya. En plus de Rachel, ça dit la gagnante, qui a lu 1178 livres. Voici les 4 autres jeunes lecteurs exceptionnels qui ont été récompensés. Voilà. Quintine Owimno qui a lu 1087 livres. Ah là là, il faut le faire, en 3 mois. Et puis, il y a qui encore? Delsa Owino, c'est la même famille, avec 1080 livres. Et puis, Yann Olive qui a lu 1077 livres. Et Wesley Joel Mariri qui a lu 732 livres. Mais je ne sais pas, à cet âge quand même, ces enfants, c'est fou quand même, il faut le faire. Waouh! Donc c'est Booksmart, l'application numérique partenaire de l'initiative qui a bénéficié du soutien de l'application. Bien sûr, Booksmart est une bibliothèque numérique qui comprend des milliers de livres gratuits. Je me suis dit, ces enfants voulaient arriver à quelque chose, voulaient faire comprendre qu'ils étaient capables de lire autant de livres en si peu de temps. Waouh! Donc, c'est une application qui permet aux jeunes d'accéder à une variété de genres, d'histoires, d'aventures, au folklore africain, en utilisant, oui, la tradition africaine, ouais, en utilisant leur téléphone portable. Ça, il faut le faire. Hein. Parce qu'ils ont été, ils ne pouvaient même pas tricher parce qu'ils ont été traqués. Voilà, les gens, ils suivaient tous leurs mouvements, ils ne savaient même pas qu'ils étaient traqués. Mais ils étaient tellement sérieux, ces enfants, qu'il y a eu un prix, des prix qui leur ont été donnés. Je dis bravo à ceux qui sont derrière. Je pense qu'il y a d'autres pays africains et d'autres pays dans le monde vont suivre cet exemple-là pour essayer de dire aux gens, si vous aimez vos téléphones cellulaires, vous pouvez aussi lire avec ça. Oui, et on va mettre une application à votre disposition qui va vous permettre d'aller de l'avant avec ça, si vous aimez la littérature et si il y a des auteurs ou il y a des choses, des facettes de la littérature que vous aimez découvrir, on vous met cette application à votre disposition. Voilà, on fait une pause musicale encore avant de revenir avec un autre sujet.
Malaika Music Band. Ah. Y a Christian Bella Obama, King of the Best Melody. CBO, allez toke.
Anani para. Bakawa, yeah. Muda wote tunangara ngara, mashallah. Maswala kupeti peti endo kiboko, yeah. Hatushoki chini, sisi ni vinara, yeah. Endo kiboko yangu, utamu wa roho yangu. Anani koshaka moyo, sijiwezi. Utamu, utamu.
Espoir Bondo ya Joy Mwenge.
Utamu, utamu. Papa Ibo, Ibo son, utamu, utamu.
Jise Modilu, Muse wa Masuti,
utamu, utamu.
Papa, ah.
Sitaweza baby, sitaweza sheri. Sikubali ishi mbali na wewe, my baby. Ata walete maneno, majungu fitina. Wakae wakijua kwako sipinduki. Sijawahi pata kama wewe unanipara. Basi baby njo,
njo.
Tuarushe ro,
ro.
Ni kama tenjo,
njo.
Kama kwenye show.
Sheria kipesa nga biloko na kuwaka kama chisi. Sheria kipesa nga loketo na kuwaka kama chisi.
Ah baby wangu wanani peti peti.
Baby wewe ni kiboko.
Baby anani dekesa.
Baby wewe ni kiboko.
Shimbali na wewe my baby. Hata walete maneno, majungu fitina. Wakae wakijua kwako sipinduki.
Anani para, paka na paka wa.
Paka na paka wa, yeah.
Muda wote tunangara ngara.
Tunangara ngara.
Maswala kupeti peti endo kiboko.
Endo kiboko, yeah.
Hatushoki chini, sisi ni vinara.
Choma diki le vie mapata.
Utamu, utamu.
Adelar chitende motema boboto.
Utamu, utamu.
Ah, Emmanuel, episcopère.
Utamu, utamu.
Ah, Tonton Tundu, anabena kuni chokoza.
Corazon de
kushi. Wakeni boy, nimekufa nimeoza.
Papa na Chris.
Akini kamata, uchanja sina.
anishushe, anipandishe.
Patrick et Jomali, tu sais qu'est dit.
Akikatika, mina data, Steven Nyerere.
Aïe, 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 na doni, palove, no man, na pagawaye.
Hier, on était en Tanzanie comme ça avec le Congolais Christian Bella et la complicité de Mailaika Band Anani Parara. Oui, c'est une Congolais de la RDC, bien sûr, qui fait carrière en Tanzanie, Christian Bella. Oui, on continue dans le milieu de la littérature. Aux Émirats, oui, vous savez, c'est les Émirats, c'est une union de sept royauté ou bien royaume, là. Ils sont sept, là. Il y a le premier festival de littérature africaine de Sharjah, l'univers qui va ouvrir ses portes bientôt pour la première fois. Ouais, le 24 janvier 2025. Ça, il faut le faire, hein, c'est jeu. La littérature africaine est en train de traverser les frontières du continent depuis quelques années d'ailleurs. Et organisée par la Sharjah Book Authority sous le patronat du cheikh Sultan bin Mohamed Al-Kazimi. Le premier festival de littérature africaine de Sharjah qui va se dérouler à l'université de Sharjah du 24 au 27 janvier 2025. Oui, Dubaï, tout ça là, ça fait partie. Abu Dhabi, tout ça, ça fait partie des Émirats. Hein, c'est... Mais l'Arabie Saoudite ne fait pas partie des Émirats. Non, non, non. Abu Dhabi et autres, Dubaï, tout ça là, ça fait partie des Émirats. Donc, ce sont ces États là qui se sont dit bon ben, la littérature africaine est en train de prendre de l'ampleur en dehors des frontières africaines du continent africain. Donc, on ne va pas rester parmi les derniers qui vont organiser un festival de littérature africaine ici. Donc, il se lance en début de cette année 2025, du 24 janvier au 3 janvier 2025. Ça fait 24, 25, 26, 27, avec 4 jours de littérature africaine. Il y aura un peu de tout, hein, aussi de la musique, de la gastronomie, d'autres domaines de la culture qui vont s'ajouter à la littérature, bien évidemment. Voilà. Donc... célébration des grandes voix africaines lors de ce festival littérature africaine de Sharjah. Le festival de littérature aussi met à l'honneur deux lauréats du prix Nobel. Wole Soyinka, l'écrivain, poète et dramaturge nigérian, qui est le premier africain à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 86. Je dis bien en 86. Ouais. Dans son œuvre qui explore des thèmes tels que l'injustice, l'identité, la corruption, souvent... en s'inspirant des traditions de la culture de Yoruba, qui c'est sa région d'origine, son ethnie, sa langue, pas son ethnie, c'est sa langue, c'est sa tribu, c'est leur groupe. Les Yoruba, c'est un peuple du Nigeria, bien sûr. Reconnu pour son engagement politique, il a été emprisonné durant la guerre civile nigériane et continue d'ailleurs de militer activement pour la démocratie et les droits de l'homme. Abdul Razak Gurna, romancier tanzanien de langue anglaise qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2021 pour sa réflexion poignante sur les effets du colonialisme et les expériences réfugiées. On a encore 2 minutes, merci beaucoup Samuel. Et on dit merci à notre invité Ayana et Oshan, excusez-moi, et puis à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. Et voilà, notre chercheuse de l'émission, Catherine Bouderon. Et on termine en beauté avec qui, Samuel?
Nelson Tivane.
Yeah, Nelson Tivane, c'est un Mozambicain aussi. Le titre de la pièce, c'est, bien sûr, Iya Va Well. Allez, prenez soin de vous, de vos minutes surtout, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. I'm not afraid to die.
Après la pause, notre équipe de bénévoles vous attend.